Chapitre 41. Richard entendit une voix lui crier quelque chose. Mais quoi? Ah oui. Respire. Quand il essaya, il s'aperçut que ses poumons refusaient de se remplir d'air. Il insista, mais en vain. On eût dit qu'une montagne pesait sur sa poitrine, l'empêchant de se soulever. Puis, il y eut un choc, violent, comme si un éclair venait de le percuter. « Respire !» cria de nouveau la voix féminine. Le sourcier s'assit en sursaut, toussa et ouvrit les yeux. Puis, il prit une profonde inspiration, comme s'il venait d'émerger des profondeurs d'un lac obscur, et dans ses ténèbres, il sembla se souvenir que quelque chose le guettait. Nietzsche était agenouillé sur son flanc gauche, et Zed sur le droit. Tous deux semblaient surpris d'avoir vu leur patient se redresser ainsi. Inquiets, ils lui posèrent chacun une main sur les tempes. La voix que Richard avait entendue était celle de la magicienne, et ce qu'il avait pris pour un éclair, c'était le don du vieux sorcier.
« Esprit du bien, soyez loué !»
souffla Nietzsche, sa main libre volant jusqu'à son propre front. Le souffle court, Richard tenta de comprendre où il était et de savoir ce qui lui était arrivé. Respirer se révélait si agréable qu'il se serait bien abandonné à ce plaisir tout simple. Et quand on ne se sentait plus menacé et attendu par des créatures sombres, comme on s'en trouvait bien. Alors que sa lucidité lui revenait, Richard capta le soulagement de tous les gens qui l'entouraient. Les vestiges de leur angoisse flottaient encore dans l'air. Rayonnante, Irena se pencha sur le sourcier, n'hésitant pas à écarter les mains de Zed et de Nietzsche pour le prendre par les épaules.
« Richard, tu es de retour »
jubila-t-elle en le secouant comme un prunier.
« Te voilà enfin conscient !»
Richard regarda autour de lui. Enfin, il la vit. Souriante, Callan poussa sans ménagement Irena et enlaça son mari, manquant lui couper de nouveau le souffle. Après un long moment, elle s'écarta un peu pour le regarder dans les yeux. Même plein de larmes, les magnifiques yeux verts de sa femme parurent plus beaux que jamais à Richard.
« Bienvenue chez les vivants »
souffla-t-elle. Puis elle se pencha de nouveau et embrassa son bien-aimé. Une façon très agréable d'avoir une fois de plus le souffle coupé. En une fraction de seconde, Richard revit tous les extraordinaires moments passés avec cette femme, de leur rencontre dans les bois de Heartland jusqu'à la dernière fois où il avait posé les yeux sur elle. Le contact de ses lèvres sur les siennes finit de le ramener à la réalité. Le monde cessa de tourner. Tout redevenait normal. Quand sa femme s'écarta un peu de lui pour le laisser respirer, Richard vit que des soldats de la première phalange observaient la scène de loin. Tous semblaient graves, mais également soulagés. Sous un ciel plombé qui annonçait la pluie, le sourcier et ses compagnons se trouvaient dans une clairière entourée de grands pins. Sur une branche, Richard repéra un écureuil et il entendit un chant d'oiseau. La vue de la nature autour de lui le réconforta comme s'il était de retour chez lui en toute sécurité. En un sens, c'était exactement ça. Il était de retour dans le monde des vivants. Il aurait juré avoir passé un siècle dans les ténèbres, incertain de trouver un jour le chemin pour en sortir. Voir Callan lui avait fait oublier la douleur et l'angoisse. De nouveau maître de lui, il s'aperçut qu'une larme roulait sur la joue de Nietzsche. Zed aussi semblait rudement ébranlé.
Nous avons réussi, dit le sourcier.
Ce n'était pas une question, mais une affirmation, et un moyen de montrer à ses compagnons qu'il avait tous ses esprits.
Nous avons traversé le défilé.
Samantha se glissa près de Zed et enlaça Richard.
Seigneur Ral, nous étions si inquiets.
Pas moi, dit Zed à la jeune fille. Il n'y avait aucune raison de s'en faire.
Il dut marquer une pause pour déglutir.
Il suffisait de s'attaquer au problème avec les compétences requises.
Richard jeta un coup d'œil à Nietzsche qui eut un regard éloquent. Aussitôt, il comprit que ça n'avait pas été si facile que ça. Même si tout le monde dans le camp semblait détendu, sauf en ce qui concernait sa santé, le sourcier se demanda s'ils étaient encore sous la menace des Shuntuk.
Où sommes-nous? Vous avez réussi à tuer tous les demi-humains ou y a-t-il des survivants?
Avons-nous des pertes ?
Quelques hommes, malheureusement, répondit Callan.
Mais nous sommes en sécurité à présent. Au-delà du défilé, nous avons pu traverser un ravin grâce à un pont improvisé par les soldats.
Un ravin ? Très profond et pas facile à contourner vu sa longueur,
dit Pfister qui se tenait derrière sa manta et sa mère.
S'il y a des survivants, ils mettront un sacré moment à nous rejoindre.
Ils peuvent nous pister,
rappela Richard.
Le pont gît désormais au fond du ravin, dit Callan. Nous pensons n'avoir rien à craindre.
Sulakan a pu envoyer d'autres Shuntuk, objecta Richard.
Et ce n'est pas la seule menace. Maintenant que plus rien ne les retient, toutes les tribus ou nations de demi-humains sont libres de venir chasser les âmes sur notre territoire. Ces êtres vont migrer comme des vols de sauterelles, et ils peuvent nous tomber dessus n'importe quand.
Nous devions nous arrêter pour que Zed et Nietzsche te réveillent,
souligna Callan.
Ils ne voulaient pas prendre le risque d'attendre plus longtemps.
Le sorcier et la magicienne se rembrunirent, laissant penser que l'inquisitrice était loin de tout dire à son mari. Irena se pencha pour que Richard la voie.
« Je les ai aidés. »«
Merci, » dit le sorcier. Il vit le regard noir que Nietzsche jetait à la mère de Samantha. Occupée à lui sourire, Irena ne s'en aperçut pas. Dans le cas contraire, elle se serait sûrement montrée beaucoup plus discrète. Mais pourquoi ce silence à propos du combat contre les Shuntuk ? Se demanda soudain Richard. En général, ses amis étaient beaucoup plus disert.
Le plan a fonctionné ? Demanda-t-il.
Nous sommes en sécurité pour l'instant,
répondit Callan. Richard regarda tous ses compagnons les uns après les autres, puis il se concentra sur sa femme.
Tu as dû utiliser mon épée ?
La question perturba visiblement l'inquisitrice. Dans ses yeux, Richard vit passer une ombre qui lui donna la réponse. Il savait ce qu'on éprouvait après s'être abandonné à la fureur de l'arme. Nul ne pouvait en parler mieux que lui.
Callan, ça n'est pas comme tuer des gens qui ont une âme.
L'inquisitrice acquiesça sombrement.
Je ne sais pas comment tu fais pour réfléchir quand tu tiens cette épée entre tes mains,
souffla-t-elle.
Pas comme tuer des gens qui ont une âme,
répéta soudain Zed.
Que veux-tu dire, mon garçon?
Quand on tue quelqu'un avec l'épée de vérité, l'arme exige un prix en échange de ce qu'elle fait. Ce prix, c'est la douleur pour celui ou celle qui la manie. Dans l'action, la colère protège le combattant de cette souffrance. Tuer, c'est séparer une âme de son corps. Un acte gravissime, mais les demi-humains n'ont pas d'âme. En conséquence, l'arme n'éprouve aucun sentiment de culpabilité envers la grâce, et elle ne demande donc aucune compensation à celui qui l'utilise. Pas de souffrance, pour être clair.
De la culpabilité ? Je ne te suis pas très bien, mon garçon.
Richard réfléchit un moment, pesant ses mots.
« Eh bien, face à un être doté d'une âme, on sent une force s'opposer à sa volonté de tuer. L'âme de la future victime lutte pour rester dans le monde des vivants, et même quand l'irréparable est accompli, elle tente par tous les moyens de ne pas traverser le voile. En même temps, celui qui tue a toujours dans un coin de sa tête la conscience du caractère sacré de la vie. Même s'il se bat pour une juste cause, préservant ainsi l'existence de gens innocents, son amour de la vie et la fraternité qu'il éprouve pour l'âme en partance pour le royaume des morts, civile fut-elle, la question n'est pas là, lui font vivre un terrible conflit intérieur, un déchirement en réalité. Cette souffrance morale, l'épée la partage parce qu'elle a été créée par une personne dotée d'une âme, ou plutôt parce qu'une personne dotée d'une âme l'a forgée, au sens symbolique du terme.
Face aux demi-humains, même s'il nous ressemble et si ça reste une exécution, on ne ressent rien de tout ça et l'épée non plus. Parce qu'ils n'ont pas d'âme, comprends-tu? Après leur mort, rien ne traverse le voile. Les combattre, c'est sombrer dans un état de démence où on s'enivre de la colère de l'arme sans limite ni culpabilité. L'épée aussi est exempte de toute réticence. Avec elle, on peut alors massacrer sans éprouver l'ombre d'un remords. N'étant pas bridée, la colère du combattant et celle de la lame atteignent des niveaux incroyables. Une expérience à la fois terrifiante et exaltante.
Richard chercha le regard de sa femme. « Tu t'es servi de l'épée dans ces conditions,
Donc tu comprends ce que je veux dire ?
L'inquisitrice hocha tristement la tête.
« Lieutenant Pfister, »
dit soudain Nietzsche, brisant un silence pesant,
« vous voulez bien conduire Samantha et sa mère près du feu de cuisson, afin qu'elles savourent le délicieux ragoût qu'ont fait mijoter vos hommes ? Désirant rester ici, au cas où nous aurions eu besoin d'elles, les pauvres n'ont plus rien avalé depuis une éternité. C'est le moment ou jamais de combler cette lacune. »
Pas né de la dernière pluie, Pfister comprit que c'était un ordre, pas une requête. Partisan de la méthode directe, il prit Iréna par le bras et la força à se redresser.
« Allons, mesdames, venez donc vous régaler d'un bon ragoût de sanglier. J'ai participé à sa confection. Nous y avons ajouté 3 lapins, des épices, des champignons trouvés sous les arbres, des épinards sauvages et même 2 gros escargots. J'aimerais vraiment avoir l'opinion d'une bonne cuisinière. »
« Eh bien, je préférerais... »
commença Iréna. Elle regarda Richard, espérant qu'il vienne à son secours, mais il ne broncha pas.
« Il faut goûter maintenant !»
insista Pfister.
« Avant de servir ce truc à tout le monde !»
Il s'éloigna, entraînant Iréna avec lui.
« Je serai honoré d'avoir votre opinion, madame, et celle de Samantha !»
La jeune magicienne hésita un moment, puis elle décida de suivre sa mère.
« Je veux bien goûter !»
dit Iréna en regardant derrière elle.
« Si c'est cuit et réussi, j'en apporterai une assiette à Richard. Il a besoin de manger plus que n'importe lequel d'entre nous. »«
Bonne idée !»
fit le lieutenant.
« Mais commençons par goûter !»